Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, avant de vous proposer ces deux prochaines semaines un résumé de l'actualité de l'année qui s'achève dans deux numéros qui prendront logiquement comme titre une année d'actualité, nous nous retrouvons pour jeter un regard sur les événements de ces sept derniers jours avec les reportages de la rédaction, bien entendu. Vous le savez, vous pouvez podcaster, écouter en différé cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr. Aujourd'hui, nous partirons pour les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, bien sûr, et nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité africaine, une actualité électorale, élection repoussée en RDC, nous le verrons avec Florence Maurice, vote au Togo, à Madagascar aussi. Notre invité ce samedi 22 décembre est géographe, co-auteur d'un atlas formidable qui est publié aux presses de Sciences Po. Bonjour Marie-Françoise Durand.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Il y a quelques années, nous avions fait une émission ensemble, toujours à propos de cet atlas, ce n'est pas la même édition, évidemment, ça remonte à quelques années. Je l'ai dit, vous êtes géographe, agrégé de géographie, et vous avez créé à Sciences Po l'atelier de cartographie. Vous, votre préoccupation, c'est de traduire en cartes, en graphiques, le monde tel qu'il est.
Le monde et voilà. Sa complexité, oui.
Sa complexité.
Absolument. L'idée est que, effectivement, on vit de plus en plus dans un monde d'images et qu'il y a un déficit d'images qui représente la complexité de ce monde, c'est-à-dire un monde de territoires, d'états, de régions, etc., et un monde de flux et de réseaux. Et cette cartographie-là n'est pas très courante, en partie parce qu'il n'y a pas trop les outils pour le faire, mais aussi parce que l'imaginaire dominant du monde reste celui du monde des états.
Des états, des frontières.
Et des frontières. Ouais. Donc ça nous paraît très important d'en montrer toutes les mobilités, toutes les fluidités, toutes les imbrications de ce réseau et comment ce double fonctionnement permet de dénouer un petit peu sa complexité.
Bertrand Badi, qui signe la préface de cet atlas, parle de l'international qui est devenu mondial.
Hein ? Absolument. Et je pense que faire une cartographie du mondial, qui donne des référents iconiques et visuels de ces flux mondiaux, de cette organisation à partir des flux mondiaux, est une chose très importante à laquelle nous nous exerçons depuis plusieurs années avec cet atlas, effectivement.
Et avec brio, il faut le préciser, parce qu'il n'y a pas, et ça c'est très important, je le répète un peu, Marie-Françoise Durand, il n'y a pas que de la politique dans cet atlas, il y a les sociétés mondiales.
Voilà, voilà. L'idée est que dans un monde mondialisé, il est aussi important de montrer l'ensemble des acteurs, les sociétés, mais aussi de plus en plus les individus, la société civile organisée sous forme des ONG, les États bien sûr, et aussi les firmes qui, elles, sont effectivement complètement globales et mondialisées et fonctionnent en flux.
Alors j'ai voulu vous inviter, Marie-Françoise Durand, vous avez coordonné cet ouvrage, vous êtes plusieurs à l'avoir fait, cet ouvrage très très brillant. J'ai voulu qu'on en parle parce que vous avez une particularité qui est rare et peut-être unique aujourd'hui, c'est que vous avez associé ce livre à un site, mais qui est un vrai site, qui est accessible par tous, on donnera l'adresse tout à l'heure, et qui permet en tant que tel de retrouver toutes ces informations, toutes ces cartes, tous ces graphiques.
Voilà. Alors c'est effectivement une expérimentation très ambitieuse que nous avons lancée à Sciences Po.
D'avoir on doit vous en remercier d'ailleurs.
D'avoir à la fois un livre et un site avec le pari que ils étaient complémentaires et pas concurrents et que l'un ne tuerait pas l'autre. Pourquoi un site et un vrai site, comme vous dites, c'est qu'il ne s'agit pas de la mise sur Internet des pages du livre, mais d'un vrai site dans lequel on peut naviguer de chapitre en chapitre, d'un mot à sa définition dans le lexique, d'une carte à l'autre, et rentrer directement dans toutes les sources qui sont mentionnées, sur les sites des sources qui sont mentionnées. Parce que nous avons pensé, pour travailler avec eux souvent, à tous ceux qui, dans le monde, n'ont pas accès au livre. Et ça, c'est très important. Alors, vous me direz, ils n'ont pas forcément la bande passante suffisante, mais quand on voit les étudiants africains, par exemple, c'était très important pour nous de mettre à leur disposition l'ensemble de ces savoirs et l'ensemble de ces images, qui sont encore plus rares dans les rayons de leur bibliothèque, quand ils en ont.
Et d'ailleurs, vous me disiez quelque chose de très très touchant, Marie-Françoise Durand, en entrant dans le studio, vous me disiez, oh, quand j'avais des moments de déprime avec l'équipe, parce que c'était un gros, gros travail que cet atlas et que ce site, vous pensiez, dites-vous, aux étudiants africains qui pourraient accéder.
Absolument.
À ces informations.
Absolument.
Donc, je recommande ce site. Je redonnerai l'adresse à la fin de l'émission, mais je donne tout de suite aussi. Il s'agit de espace-mondial-atlas.sciencespo en un seul mot.fr. espace-mondial-atlas.sciencespo.fr. En cela, c'est une initiative unique.
Unique et porté par Sciences Po, c'est vraiment un choix délibéré de Sciences Po de mettre à la disposition d'un public non spécialiste des productions scientifiques traduites entre autres en images.
Marie-Françoise, partons tout de suite pour les États-Unis qui, c'est une décision de Donald Trump, ont décidé de se désengager de la Syrie. Correspondance mercredi de Grégoire Pourtier.
Donald Trump a pris son entourage de court puisque de hauts responsables estimaient ces derniers jours que les États-Unis allaient devoir rester encore quelques temps en Syrie. Non seulement parce que l'organisation État islamique pouvait y ressurgir, mais aussi, surtout même, parce que la situation politique du pays n'était pas réglée et que toute la stabilité de la région en dépendait. En fait, Donald Trump semble avoir pris sa décision seul et quasiment sans prévenir personne. Hier, il a été impossible d'avoir des détails sur les modalités de ce retrait et des élus républicains ne cachaient pas leur consternation. C'est l'une des manœuvres stratégiques les plus stupides de l'histoire, a même lâché l'un d'eux. Les analystes rappelaient aussi l'échec du retrait d'Irak décidé en son temps par Barack Obama qui avait justement ouvert la voie à l'État islamique et ils s'étonnent donc de cette décision qui favorise en outre l'Iran, pourtant ennemi juré de Trump dans la région, mais aussi la Russie qui va pouvoir y accroître son influence. A l'inverse, les Kurdes, alliés des Américains contre les djihadistes, vont se retrouver à la merci de la Turquie avec qui, hasard du calendrier, Washington a conclu hier un gros contrat d'armement.
Cette décision aux grandes conséquences géopolitiques a entraîné la démission du secrétaire à la Défense, Jim Mattis, qui, dans une lettre écrite au président Trump, écrit ceci, qu'il faut traiter ses alliés avec respect. Après les États-Unis, la Chine, qui célébrait cette semaine les 40 ans de son ouverture économique, c'est une autre image forte de la semaine à Pékin, mardi. Stéphane Lagarde.
Quatre décennies d'ouverture et de réformes économiques, mais le protocole, lui, ne change pas. Sous l'étoile rouge du parti, une majorité d'hommes en costume sombre qui tournent les pages à mesure que le président chinois avance dans son discours. Il y a 40 ans, on avait des bons pour acheter des vêtements, pour acheter de la viande, du tofu, du riz, du poisson. Aujourd'hui, ces tickets de rationnement sont au musée, martèle Xi Jinping. Le chef de l'État revient sur les grandes dates de ce bond en avant. Et salue ses prédécesseurs. La Chine est désormais au centre de la scène mondiale. Nul ne peut dicter sa conduite au peuple chinois. Ce discours fleuve de plus de 1h30 a été précédé d'une remise de médaille aux pionniers de la réforme et de l'ouverture qui saluent d'un geste de la main quand leur visage apparaît à l'écran. Sans nom sortent des haut-parleurs. Jack Ma, le président du géant du commerce en ligne, Alibaba, le patron de Baidu, le prix Nobel chinois de médecine et même des étrangers qui ont contribué au développement du pays, comme le français Alain Mérieux, président de l'institut du même nom. Une remise de médaille sur la très officielle Histoire du printemps, musique dont les paroles racontent la visite de Deng Xiaoping dans la zone économique spéciale de Shenzhen, en face de Hong Kong, là où tout a commencé, il y a 40 ans.
Suite d'une semaine d'actualité, en compagnie de Marie-Françoise Durand, avec elle nous parlons de Espace Mondial, l'Atlas 2018, publié par les presses de Sciences Po, et donc sur Internet également, sur un site très très précis. Dans cet Atlas, il y a des entrées très originales, Marie-Françoise Durand, il y a une entrée sur la recomposition de la puissance, aujourd'hui, il y a toujours avec des graphiques et des cartes, une entrée sur les conflits d'aujourd'hui, qui ne sont plus des... qui sont moins des conflits entre États et plus des conflits à l'intérieur des États. Et la Chine est au cœur de ce travail.
Absolument. Et il y a deux phrases qui m'ont frappée dans la traduction que j'ai pu lire du discours du président chinois. Personne ne peut donner de leçons au peuple chinois et la Chine est prête à jouer progressivement un rôle central sur la scène mondiale. Je pense que ça résume exactement la position actuelle non seulement du gouvernement chinois, mais de l'économie chinoise dans le monde, et même, je dirais, que d'une certaine façon, de la société chinoise. les Occidentaux en général gardent une petite difficulté à se situer. Autant ils ont des analyses économiques très poussées, autant ils voient moins comment fonctionne et change la société chinoise. Ils ont souvent considéré la Chine d'abord comme intrus, et puis comme partenaire économique. Et puis maintenant, ce discours montre bien qu'il va peut-être falloir la considérer comme leader sur beaucoup de domaines. Alors, c'est la plus grande société du monde, avec une mutation très très rapide. Et ces 40 ans, c'est effectivement les 40 ans des 4 modernisations de Deng Xiaoping, qui l'ont porté de 2% du PIB mondial en 78. Un PIB, c'est toujours difficile de calculer exactement des PIB, mais en tout cas, un PIB qui dépasse
et
produit intérieur brut qui dépasse ou probablement celui des États-Unis.
Et d'ailleurs, sur tous les graphiques que vous publiez, dans quelles que soient les entrées dans cet atlas qui concerne la Chine, sont très spectaculaires. Parce que j'ai sous les yeux celui qui concerne l'évolution des dépenses militaires entre 1988 et 2016. La Chine est en tête, tout pays confondu, de l'accélération de l'augmentation des dépenses militaires.
Absolument. Alors, les dépenses militaires, c'est une des facettes la plus géopolitique et la plus traditionnelle de la puissance chinoise, qui va aussi avec des déploiements régionaux, des revendications en mer de Chine, etc. Mais ça n'est qu'une partie. Et très souvent, on pense la Chine comme beaucoup d'éléments dans la mondialisation par secteur. Et il me semble très important de la penser plus globalement et de voir cette société en mutation, ce passage quand même de la fin de l'ère Mao Tse-tung, où on a pu avoir jusqu'à 30 millions de morts de famine, à une société où il y a encore évidemment beaucoup de pauvres, où il y a beaucoup de migrants ruraux de l'intérieur vers les villes très développées de la partie côtière, mais où de toute façon on mange, on s'habille, on habite peut-être dans des villes très denses, très tassées, très polluées. On habite, on se déplace à l'intérieur de la Chine et on se déplace même à l'international.
La Chine qui a aujourd'hui dans le monde un lot de milliardaires,
Ce qui est intéressant dans ce développement fulgurant, cette entrée dans le capitalisme mondial et dans les réseaux économiques mondiaux, c'est que ça s'est traduit à la fois par quand même une élévation moyenne du niveau de vie des Chinois qui est très importante, mais aussi par un creusement des écarts sociaux, oui, bien évidemment, par rapport au modèle initial, et malgré le fait que ce soit un pays dirigé par un parti communiste, plus que jamais. Et on a effectivement des Chinois extrêmement riches. Grands milliardaires du monde, qui se voient soit dans la consommation privée, bien évidemment, soit dans les investissements. Et on pense notamment à ce que peut-être chaque consommateur peut connaître. C'est par exemple le site de vente en ligne Alibaba, qui vend dans le monde entier des produits chinois.
Ouais.
Sept jours dans le monde.
Et direction l'Europe, Marie-Françoise Durand, avec la suite et sûrement pas la fin du débat sur le Brexit à Londres. Il y a eu cette semaine une séance agitée aux communes, une de plus, correspondance mercredi de Muriel Delcroix.
Malgré une atmosphère surchauffée, Theresa May et son principal adversaire travailliste Jeremy Corbyn ont d'abord tenu à s'adresser leurs meilleurs vœux. Mais après les Merry Christmas et Happy New Year de rigueur, l'esprit de Noël s'est vite évaporé face à la question brûlante du Brexit. Chose rarissime, les insultes ont même fusé. Quel idiote n'a pu s'empêcher de murmurer entre ses dents Jeremy Corbyn à l'encontre de la première ministre qui venait de se moquer de lui. L'incident a provoqué un véritable tollé et de nombreux députés conservateurs furibonds ont d'emblée exigé des excuses. Un peu plus tôt, un chef du Labour hors de lui avait accusé Theresa May de chercher à gagner du temps en repoussant le vote sur son accord de retrait à la mi-janvier. Une manœuvre cynique destinée selon Jeremy Corbyn à forcer la main aux députés pour qu'ils approuvent l'accord sur le Brexit en agitant de plus en plus la menace d'un no deal, une sortie sans accord. De nombreux parlementaires de tous bords ont eux aussi crié au chantage et dénoncé un gâchis financier face aux quelques 5 milliards d'euros débloqués pour parer à toute sortie brutale de l'Union européenne. Les parlementaires ont à maintes reprises assuré qu'ils ne permettraient jamais une sortie sans accord et demandent au gouvernement de les laisser voter sur une série d'alternatives pour tenter de trouver un consensus et ainsi sortir au plus vite de l'impasse.
Alors après l'Angleterre, l'Allemagne, Berlin a adopté cette semaine une loi sur l'immigration choisie, c'est nouveau. Dans la capitale allemande, Pascal Thibault nous a tout expliqué.
Il y a eu dans les années 60 et 70 l'arrivée de nombreux migrants, peu qualifiés, turcs notamment, pour travailler dans une industrie allemande en plein miracle économique. Ces dernières années, de nombreux réfugiés ont été accueillis et des Européens de l'Est et du Sud sont venus chercher du travail en Allemagne. Mais le pays vieillit et déjà plus d'un million d'emplois ne sont pas pourvus, faute de main-d'œuvre. Selon deux experts, l'Allemagne aura besoin jusqu'en 2050 de 400 000 travailleurs non-européens chaque année. Berlin répond à ces nécessités, à la pression des milieux économiques, avec une loi sur l'immigration choisie. Le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer.
Il était temps que nous présentions un tel texte. Nous insistons sur le fait qu'il s'agit d'attirer en Allemagne des personnes qualifiées. Je ne connais pas à l'heure où je vous parle une loi sur l'immigration dans le monde qui se veuille aussi moderne.
Il s'agit d'attirer de la main-d'œuvre qualifiée ayant des connaissances de base de l'allemand pour favoriser leur intégration. Il ne sera plus nécessaire de vérifier si des Allemands ou des Européens peuvent occuper un emploi vacant. Le ministre de l'économie, Peter Altmaier, table à terme sur une croissance annuelle d'un demi pour cent à 1% supplémentaire grâce à ces mesures.
Suite à une semaine d'actualité, Marie-Françoise Durand, l'Angleterre, l'Europe et le Brexit sont au cœur aussi de cette atlas. Vous publiez d'ailleurs une carte qu'on doit retrouver certainement sur le site également, qui montre les zones où on a voté pour le Brexit en Grande-Bretagne, où on voit qu'il y a une coupure nord-sud très clairement. L'Écosse, l'Irlande du Nord n'ont pas voté pour le Brexit. En revanche, la partie centrale de l'Angleterre, notamment la partie est, elle a voté vraiment pour le Brexit. Et cela veut dire quoi? Que le Brexit, c'est une affaire qui n'est pas encore tout à fait terminée? Qu'il y aura peut-être un autre référendum? Parce qu'il y a une division, très clairement.
Ça, c'est assez difficile.
Il se voit sur les cartes.
Oui, on voit très bien sur les cartes ces coupures, ces positions différentes. Mais je voudrais rappeler quand même dans cette histoire à épisode désunion européenne que d'abord le Royaume-Uni n'était pas fondateur, n'était pas parmi les membres fondateurs et qui a toujours eu, et il est entré qu'en 73 et qui a toujours eu des épisodes un petit peu compliqués dans les rapports. Il n'est pas dans la zone euro et n'est pas dans l'espace Schengen. Et que par ailleurs, dans le traité de l'Union, l'article 50 permet effectivement le divorce.
La sortie, oui.
Mais qu'en revanche, il est très intégré économiquement, puisqu'il y a 45% de ses exportations qui sont vers l'Europe et 15% de ses importations qui viennent d'Europe. Alors, comment la situation va pouvoir évoluer, avec ou sans accord, c'est difficile à savoir, parce que le clivage pro-anti passe aussi à l'intérieur des partis et passe entre les régions du Royaume-Uni. Donc il y a un risque de dérive, de désunion, et un des enjeux, justement, dans le compromis qui a été construit, qui fait 400 pages ou plus, je crois, et que visiblement le Parlement ne semble pas tout à fait prêt à voter, alors qu'il aurait déjà dû voter la semaine dernière et que le vote a été repoussé. Une des inquiétudes de l'Union européenne, c'est d'avoir une frontière dure entre l'Irlande.
Et oui, c'est la grande question.
Voilà, politique. C'est la grande question. Et donc, ce compromis prévoyait un filet de sécurité où la frontière ne soit pas complètement fermée. Alors, qu'est-ce que ça va devenir? Je pense qu'on va le savoir dans les jours qui viennent.
Il faut rappeler que la date butoir, c'est fin mars de l'année prochaine.
La date butoir, c'est fin mars. Et c'est vrai que pour l'Union européenne, pour le Royaume-Uni, le no deal serait quelque chose de pénalisant. Mais pour l'Union européenne, ce serait aussi quelque chose de compliqué. Alors, ça pointe tous les paradoxes et toutes les difficultés de l'Union européenne, qui est à la fois l'organisation régionale la plus intégrée du monde, avec des délégations de souveraineté qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Fort contestée d'ailleurs.
Et fort contestée justement par les brexiteurs et ultra-brexiteurs. De fortes interdépendances économiques, et puis aussi l'idée que elle a été construite sur une Europe qui s'était entre-déchirée deux fois, de façon extrêmement destructrice, et que donc c'est un projet de paix. Sauf que c'est un projet de paix qui est aussi un projet d'une économie libérale, qui en ce moment produit des distorsions économiques et sociales que les populations supportent de moins en moins. Et donc, beaucoup, selon les moments, selon les instrumentalisations politiques, de politique intérieure des uns et des autres, ont tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ça, c'est effectivement un passage difficile pour l'Union européenne.
Et rappelons qu'il y a aussi l'année prochaine des élections européennes très importantes, hein, du coup,
oui,
dans ce contexte.
Mais qui toujours ont un enjeu de politique intérieure pour les partis. Oui. Et puis, on voit bien que le déficit démocratique, quelque part, et la place du Parlement européen marque une nécessité, après les périodes d'élargissement et puis peut-être de rétrécissement avec le Brexit, d'un approfondissement démocratique de l'Union européenne. C'est indiscutable.
Une semaine d'actualité.
Attardons-nous en France, Marie-Françoise Durand, maintenant avec les difficultés du gouvernement qui peine, semble-t-il, à se sortir de la crise politico-sociale des Gilets jaunes. Véronique Rigolet.
Signe de l'extrême fébrilité qui règne au sein de l'exécutif, ce terrible cafouillage du gouvernement qui, en moins de 4 heures mardi, aura annulé, puis rétabli pour 130 millions d'euros de mesures en faveur des ménages. Un double rétropédalage inédit et imposé par la grosse colère et l'incompréhension, non pas de l'opposition, mais des députés de la majorité. Le Premier ministre Édouard Philippe a dû finalement faire amende honorable en reconnaissant le côté délicat, a-t-il dit, de l'exercice en pleine préparation accélérée du budget 2019. Même difficulté pour mettre en œuvre au plus vite la promesse du président d'un grand débat national. À la mi-décembre avait-il espéré. Finalement, tout est repoussé d'un mois au 10 janvier prochain. Mise en place délicate, là encore, pour un exercice inédit et sur fond d'attente également parfois contradictoire des Français. Selon une étude, ils préféreraient une diminution des impôts à une amélioration des services publics, mais tout en souhaitant que ces derniers soient préservés. En attendant l'ouverture de ce grand débat, les maires ont donc été priés d'échanger avec leurs administrés, mais certains rechignent de se voir ainsi refiler la patate chaude, alors que d'autres souhaiteraient au contraire élargir les débats avant même la grande concertation nationale, au risque, s'étranglent déjà certains députés, de créer une véritable usine à gaz.
Marie-Françoise Durand, cette crise des Gilets jaunes a eu au moins une conséquence politique, elle a en quelque sorte désinhibé les députés En Marche, Anthony Lattier.
Ils ont voté le plan d'urgence, ils ont fait ce que l'on attendait d'eux, mais les députés de la majorité veulent désormais que leur rapport avec l'exécutif change, explique le marcheur Mathieu Orphelin.
Niveau gouvernement, niveau conseiller des ministres, etc., il faut que tout le monde se détende en arrêtant pour certains de croire que quand nous proposons des amendements forts, c'est pas pour embêter le gouvernement, c'est pour renforcer le travail du gouvernement. Donc un gouvernement fort, une majorité forte, c'est comme ça que ça doit marcher. Et des fois, ça frotte un peu, c'est la vie, c'est ça. La politique, c'est aussi des rapports de force.
Il faut que l'exécutif écoute davantage les députés de la majorité, eux qui sont au plus près du terrain. C'est ce que souhaite Bruno Fuchs, élu du Modem.
C'est vrai que depuis un an et demi, on n'a pas été entendu, ou pas suffisamment été entendu, clairement, alors qu'on a dit les choses depuis un moment. J'espère que cette phase-là permettra aussi d'être mieux entendu, pas systématiquement, mais qu'on tienne compte de ce qu'on ressent, de ce que les gens nous disent. On est là pour ça aussi, de représenter un territoire et de faire remonter et d'arbitrer sur ce que ressentent les gens.
On n'a jamais été des députés godillots, mais à l'avenir, on le sera encore moins qu'avant, promet un marcheur. La majorité s'est réveillée, elle a maintenant le goût du sang, constate un cadre de l'opposition.
Pendant ce temps-là, les Gilets jaunes tentent de rester mobilisés en cette époque de fin d'année, de Noël, de fête. Reportage par exemple sur un rond-point à Coignières, c'est dans les Yvelines, dans la banlieue de Paris, signé Pierre Olivier.
À quelques mètres de leur ancien rond-point, ces Gilets jaunes ont réinvesti le bord de la route. Près d'un feu de palette, une petite maison de bois a vu le jour.
C'est une cabane pour pouvoir se restaurer, de quoi faire notre café à l'intérieur, de quoi faire à manger. Voilà, on l'a reconstruit. Certes, on nous a délogés, on s'est remis dans un autre coin, on sera toujours là.
Mais depuis que les policiers les ont délogés une première fois, ces Gilets jaunes se sont fixés une règle.
Pas de blocage, on est là pour montrer qu'on est présent et qu'on lâchera pas l'affaire.
Aucun barrage routier, à la place, une pétition pour le référendum d'initiative citoyenne que les Gilets jaunes font signer aux automobilistes. Certains leur apportent même des provisions en tout genre.
Du thé, du café, des gâteaux.
Ah, c'est gentil.
Pourquoi c'est important pour vous, madame, d'apporter des provisions, de signer la pétition, de soutenir ?
Je peux pas venir. Moi, je suis en pleine fête de fin d'année dans la restauration, donc ça les aide. Maintenant, ils sont partis loin, il faut pas lâcher.
Merci beaucoup, madame.
Les gilets jaunes les plus déterminés envisagent même de passer les fêtes de fin d'année sur leur rond-point.
Noël ici ? Ouais. Bah ouais, on va ramener le foie gras, la dinde de Noël, on va tout ramener ici. Même les cadeaux, tout ça.
Et si la police les déloge une nouvelle fois, aucun problème, disent-ils, ils iront sur un autre rond-point.
Voilà une bonne idée, faire un réveillon sur un rond-point, ça vous tente, Marie-François?
Pourquoi pas?
En tout cas, le phénomène, ce phénomène entre guillemets des gilets jaunes vous passionne?
Oui, parce que j'y applique une lecture qui est un petit peu transversale dans tous les sujets qu'on aborde dans l'Atlas. C'est-à-dire, plutôt que de les appeler, au début on les appelait des territoires, c'était même pas des personnes mais des territoires, c'est-à-dire le périurbain, le rurbain, le rural, etc. Je pense que ce sont des acteurs sociaux, comme d'autres, d'ailleurs ils l'ont bien montré, et que la situation qui peut paraître très locale sur le rond-point où nous allons aller réveillonner
à Coignères,
de concert à Coignères, on a à la fois le croisement de tensions et de paradoxes entre du très local, du communal, régional, du national évidemment, et c'est essentiellement à l'État qui s'adresse, mais aussi de l'international, du transnational, de l'intersocial, comme dit Bertrand Babdi, et c'est ce que j'appelle le glocal. C'est-à-dire que si on essaye de dénouer la situation, on a toutes sortes d'acteurs. Évidemment, les États et toutes les divisions administratives inférieures à l'État jusqu'aux communes, et les politiques publiques, parce que dans leurs revendications, il y a des politiques publiques qui ne nous conviennent pas. Vous nous avez abandonnés, on veut des services publics. Mais il y a aussi les multinationales de l'automobile, qui ont menti sur les tests du diesel, par exemple. Il y a aussi les banques, avec l'endettement des ménages, les multinationales des énergies fossiles, les multinationales des réseaux sociaux. Parce que ça, c'est une nouveauté extrêmement intéressante.
Qui est traitée d'ailleurs dans l'Atlas.
Oui, ouais. Qui est traitée dans l'Atlas, effectivement, d'une mobilisation, c'est-à-dire ça change le niveau d'information, l'accès de tout le monde à l'information, avec plus ou moins de maîtrise, mais en tout cas à l'information, et la capacité de se mobiliser à partir de ces réseaux sociaux. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, et c'est complètement différent de toutes les mobilisations traditionnelles avec les syndicats, sur un programme, non. C'est des gens qui ne se connaissaient pas et qui se sont rencontrés sur des revendications, enfin des souffrances et des revendications communes. Alors, comment se sortir? Vous avez commencé avec comment se sortir de la crise des Gilets jaunes. Mais je pense qu'on n'en est pas sorti, parce qu'elle est la conséquence d'un certain type d'urbanisation, de la gentrification des centres-villes et du fait qu'on ne peut plus vivre en région parisienne.
Donc,
mais
dans toutes les, de s'éloigner des
dans,
villes,
dans toutes les dans toutes les grandes villes, de l'évolution des transports, on voit très bien que se fluidifient les grandes lignes ou l'interurbain, mais pas du tout les petites lignes. Et de la réforme de la SNCF, vous voulez fermer ces lignes non rentables. Maintenant, on commence à redire qu'il faudrait peut-être les faire transformer.
C'est le contenu du rapport Spinetta.
Absolument. Ouais. De l'incitation des firmes multinationales de la grande distribution à aller faire ses cours dans les hypermarchés, donc à vider les centres-villes des emplois, du lien social qu'il y avait autour de ces commerces, donc plus de commerces de proximité, on l'a dit tout à l'heure, plus de services publics, du choix quand même de la dématérialisation des services publics, qui fait que comme il y a quand même encore beaucoup de difficultés d'accès à la gestion administrative par Internet pour une partie de la population, participe de la déshumanisation et du sentiment d'abandon, et puis bien sûr l'idée qu'on ne leur porte pas d'intérêt. Alors je ne pense pas que tout ça se répare en un vote.
Et cela est à replacer dans un contexte international. Je répète ce que vous dites, Marie-Françoise Durand, et je vous cite là cette fois dans l'entrée, c'est au tout début de la tasse du chapitre intitulé « Riches et pauvres ». Vous écrivez, ou la personne qui a écrit cette notice écrit ceci, « Le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a diminué de 2/3 depuis le début des années 90, mais 700 millions de personnes vivent avec moins de 1,90$ par jour en 2015, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. La pauvreté n'épargne pas non plus les pays riches. dont les modèles sociaux sont ébranlés par une crise qui touche d'abord les plus démunis et atteint de nouvelles catégories sociales, travailleurs pauvres, familles monoparentales, jeunes, etc. etc. Nous y sommes, ce sont les jeunes jaunes à replacer dans un contexte général.
Nous y sommes, et pas seulement en France, c'est-à-dire que beaucoup d'argent a été investi pour sauver l'économie mondiale après la crise de 2008, mais il est évident que globalement, les classes moyennes ne s'en sont pas remises. Et cette distorsion entre des efforts de plus en plus grands pour vivre, non pas dans l'extrême pauvreté que vous avez mentionné maintenant, mais correctement. Donc, cette distorsion entre ces efforts consentis et le fait que, progressivement, immanquablement, leur situation s'érode, ou en tout cas ne reprend pas comme elle pouvait être avant la crise, est quelque chose qui contribue à faire exploser la cocotte minute, en plus de tout ce qu'on a dit tout à l'heure.
Avec ce sentiment, Marie-Françoise Durand, que les enfants de ces personnes qui sont dans la difficulté n'ont aucune perspective, et vivront moins bien que leurs parents.
Absolument.
Ce qui est la désespérance totale.
Et que même les actifs mobilisés n'auront sûrement pas les retraites que peut avoir la génération actuelle de retraités. Même si dans ces mobilisés, il y a des retraités avec des petites retraites. Mais globalement, le système des retraites est aussi en train de s'éroder. Donc, leurs perspectives d'avenir ne peuvent être que d'aggravation pour eux-mêmes et pour leurs enfants.
Donc c'est un mouvement qu'il faut suivre.
Oui, mais il se chargera d'être suivi.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Un salut à quelques auditeurs africains, comme chaque semaine. Bonjour par exemple à Galadje et à Josué qui vivent à Bamako. Bonjour à Roger, à Kisangani, à Fousseni, à Lomé, à Laï, à Abidjan et à Elias à Cotonou.
Une semaine d'actualité.
Et partons pour l'Afrique, Marie-Françoise Durand, avec d'abord la République démocratique du Congo, où l'élection présidentielle a finalement été repoussée à la semaine prochaine, au 30 décembre prochain. Ainsi en a décidé la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, à Kinshasa ce jour-là, Florence Maurice.
Le suspense a pris fin vers 17h30, mais avant de confirmer ce report que chacun pressentait, le président de la commission électorale, Corneille Nanga, a tenté de rassurer l'opinion.
Je ne dirai rien qui soit de nature à compromettre l'élan démocratique dans lequel tous nous sommes engagés. Je voudrais ainsi préciser que le processus électoral se poursuit et que nous avons bel et bien entamé le dernier virage vers les élections. Nous appelons les uns les autres au calme, en évitant tout quiproquo dans la perception de la communication de la CENI.
Un report d'une semaine, finalement, que la CENI impute à l'incendie qui a ravagé la semaine dernière un entrepôt de matériel électoral à Kinshasa. Corneille Nanga assure que les machines de remplacement sont bien arrivées, mais pas tous les bulletins de vote.
5 millions de bulletins de vote ont été commandés, dont le dernier lot ne peut arriver qu'au soir du samedi 22 décembre 2018. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018.
Aucune référence en revanche au problème de déploiement de matériel que rencontre la CENI dans le reste du pays, selon les informations qui remontent du terrain et qui laissent sceptique plus d'un observateur sur sa capacité à relever tous les défis auxquels elle est confrontée en 7 jours seulement.
La fin de cette campagne électorale et cette élection, bien sûr, sont à suivre sur notre antenne et sur le site www.rfi.fr. Mardi, c'était la journée internationale des migrants. Nous vous avons proposé à cette occasion une série de témoignages d'émigrés, tel celui-ci, avec ses propos d'un Camerounais de 29 ans, bloqué au Maroc, à Tanger précisément. Écoutons-le avant de reparler de migration avec vous, Marie-Françoise Durand.
Je voudrais dire personnellement que vraiment je suis déçu parce que ce que je pensais, c'est pas ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Malgré tout ce qui se passe, je garde toujours la tête haute parce que c'est ça un homme. Un homme doit toujours garder la tête haute et être toujours fort dans l'esprit. Donc Je ne sais pas pourquoi la peau noire est détestée dans le monde. Quand je vois des choses qui se passent, je vois des trucs de racisme qui se passent dans le monde aujourd'hui, que je vois beaucoup, ça me met vraiment mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi l'homme peut détester son frère, parce que nous sommes tous les humains. Nous avons le même sang. Moi, on m'a escaladé à Casablanca. Après, je suis revenu, j'ai payé le transport, je suis revenu. J'ai dit que c'est ici que moi je veux me battre pour entrer en Europe. Je crois toujours que je pourrais entrer un jour. Et je continue la bataille. Ça fait 2 ans que je suis au Maroc. En fait, moi, je suis footballeur. Ça c'est un truc que j'ai obtenu ici au Maroc. Ça, c'est Tanja Cobra. Ça, c'est un tournoi du Maroc. On a pris quelques de mes frères. Donc, c'était pour les Marocains. Mais la personne qui avait l'équipe, il a donc pris quelques de mes frères. Il a dit que nous aussi, ceux qui sont des bons joueurs, bon, pour leur montrer que nous avons aussi des talents en nous.
Propos recueillis par Ouda Ibrahim. Suite de cette édition d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Marie-Françoise Durand et avec elle nous parlons de cet atlas 2018, Espace Mondial, publié par les presses de Sciences Po. Émouvant ces propos de ce jeune homme.
Nous sommes du même sang. Ouais. Je pense que effectivement, il pose bien le problème. C'est-à-dire que le grand paradoxe, c'est qu'on est dans un monde de mobilité, de plus en plus fluide, pour les biens, les services, les capitaux, l'information.
Bien sûr.
Sauf les hommes. Et il y a donc là une tension qui est très paradoxale et une sorte d'hystérisation sur la question des migrations qui représente 3,4% de la population mondiale, qui sont en augmentation, qui se diversifient, qui se ramifient, bien sûr.
Il faut préciser, d'ailleurs c'est en lisant l'Atlas que je l'ai appris, qu'en 2017, il y avait 258 millions de migrants, plus de 50% par rapport à 2000.
Absolument. Donc effectivement, c'est une augmentation importante. Avec, je pense que pour être un peu rigoureux, il faut distinguer plusieurs sortes de migrants. Même si, dans les cas concrets de chacun des itinéraires lents, compliqués et dangereux vers ce qu'ils imaginent être un avenir meilleur, mélangent en fait ces types de catégories. Il y a d'abord les réfugiés, qui fuient généralement la guerre. Les déplacés, dont la courbe d'augmentation est beaucoup plus importante que celle des réfugiés. Le réfugié quitte son pays, passe la frontière. Le déplacé reste à l'intérieur de son pays, donc reste dépendant du droit national de son pays, qui généralement est un État failli, en guerre, et donc il fuit où il peut, mais il ne peut pas passer la frontière. Donc les réfugiés, les déplacés, les migrants économiques, et les migrants environnementaux, dont les effectifs, de toute évidence, vont beaucoup augmenter. Alors, dans ce paradoxe où tout bouge sauf les hommes, il faut pas oublier que dans ces 258 millions de migrants, on a la moitié, un petit peu plus que la moitié, qui sont des migrations sud-sud. C'est-à-dire que plus de la moitié de ceux qui sont candidats au départ n'arrivent pas et restent. Et notamment les migrations interafricaines qui sont très importantes. Il faut aussi le resituer dans trois grandes caractéristiques du monde, je crois. Les dynamiques démographiques, où on voit bien l'ensemble des pays du Sud font 88% de la population du monde et que l'Europe et les États-Unis font le reste. D'une part, que le monde est très inégal. Et ces inégalités, elles sont maintenant de plus en plus visibles. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la mondialisation de l'information. Même les gens très pauvres, même les gens très isolés, ont une image de l'ailleurs, ce qui n'était pas le cas précédemment.
Alors dans ces mouvements de population, il y a également la question de l'urbanisation du monde que vous traitez avec force, cartes et graphiques avec votre équipe, Marie-Françoise Durand. Et je cite un passage de ce chapitre, vous écrivez « Les villes géantes se multiplient, 513 agglomérations dépassent le million d'habitants contre 16 seulement en 1900 et aucune au début du 19e siècle. 5 d'entre elles comptent plus de 20 millions d'habitants, c'est-à-dire Tokyo, New Delhi, Shanghai, Mexico, Sao Paulo. Ça, c'est aussi un phénomène. Et on parlait de Kinshasa tout à l'heure. On est autour des 20 millions.
Là, voilà. Alors, ce qui est très impressionnant quand on regarde l'évolution, parce que à chaque fois qu'on traite des données, on essaye de les mettre dans une dynamique, dans le temps. Et quand on regarde l'évolution, la croissance urbaine la plus forte est dans les villes des pays les plus pauvres. Ce qui veut dire que déjà une grande partie de leur population habitent, entre guillemets, dans des bidonvilles, mais que de plus en plus, ça va être des villes bidonvilles. Ce qui veut dire une extrême pauvreté, ce qui veut dire une désintégration sociale accentuée par rapport au milieu rural, et ce qui veut dire une potentialité de violence, et en tout cas une sensibilité pour le recrutement des entrepreneurs de violence dans ces villes qui sera accrue. Alors, elles sont souvent d'ailleurs qu'une étape de la migration rurale ou des petites villes vers la grande ville, qu'une étape vers la migration internationale. Et je voulais rappeler un chiffre qui est très important, c'est que les remises des migrants à leurs familles, c'est-à-dire c'est les migrants économiques qui partent pour travailler, les remises, malgré souvent des salaires très peu élevés, sont 3 fois supérieures à l'aide au développement. Tant qu'on saura dans ces poids et mesures, rien n'arrêtera la migration. On peut construire un mur avec le Mexique, mais rien n'arrêtera la migration.
Sept jours en Afrique.
Partons pour Madagascar, où les électeurs étaient appelés à élire leur président mercredi. On vous en a parlé bien sûr dans nos journaux et on continue à le faire avec 2 candidats qui se proclament d'ailleurs déjà vainqueurs à Antananarivo. Présentation de Laetitia Bezin.
2 ennemis de longue date, 2 candidats bien connus des Malgaches. L'aîné, Marc Ravalomanana, 69 ans, est élu chef de l'État en 2002, contraint à la démission et à l'exil 7 ans plus tard, en cause ses dérives autoritaires qui déclenchent une série de contestations menées par son adversaire actuel, Ange Radzoen. Ce dernier prend alors le pouvoir avec le soutien de l'armée. Mais les 2 ennemis de la crise de 2009 ont plusieurs points communs. Originaires des Hauts Plateaux, dans le centre de l'île, ils ont été maires de la capitale, chefs d'entreprise, très bons orateurs et fins communicants, ils ont su se hisser sans difficulté en tête du premier tour, notamment avec des promesses populistes. Surnommé Dada, papa par ses partisans, Marc Ravalomanana est réputé pour son franc-parler et sa fermeté. Cet ancien livreur de lait qui se veut toujours proche du peuple est aujourd'hui à la tête d'un empire agroalimentaire. Pour cette élection, il mise sur son expérience. En face, son cadet, Ange Radzoen, 44 ans, fils de colonel, appelé Zanchkel, le petit gars par ses sympathisants, met en avant sa jeunesse. Avant d'entrer en politique, ce patron de société publicitaire était aussi connu comme organisateur de soirées. Critiqué pour son inexpérience pendant la transition, il s'était forcé de faire oublier son passé de président non élu, affirmant qu'il avait changé.
À suivre également dans nos journaux, bien sûr, élections législatives cette fois au Togo. Jeudi, notre correspondant Peter Sassou Dogbé a suivi la journée de vote au centre du pays, à Tchamba précisément. Écoutons son reportage.
Pendant que le dernier électeur arrivé était encore dans l'isoloir, au bureau de vote 04 de l'école centrale de Tchamba, il est 16h, le président du bureau ferme la porte en fer de cette salle de classe qui fait ce jour office de bureau de vote. Au terme de 3 quarts d'heure de dépouillement, il proclame.
Nous avons 466 inscrits sur la liste électorale, dont 408 pour l'UNIR, 48 bulletins nuls, et 454 votants. Merci.
À Tchamba, il n'y avait pas un grand enjeu. Une seule liste, celle de l'Union pour la République au pouvoir, était en lice, contrairement à Sokodé, où le parti au pouvoir avait en face le parti pour la démocratie et le renouveau. Dans tous les cas, le plus dur qu'on craignait est passé. Le vote s'est déroulé dans le calme, même s'il n'a pas drainé de foule. Le vote a eu lieu, ce qui fait dire à Ladi Tchanyao, candidate sur la liste Unira Tchaoudjo, qu'il faut rendre grâce à Dieu.
Avant de parler des élections proprement dites, je vais m'acquitter d'un devoir qui est de rendre grâce à Dieu, qui a permis que nous arrivions à ce jour. Ainsi, chacun accomplit son devoir civique.
La vie a repris timidement hier soir à Sokodé. La patrouille militaire n'est pas pour autant arrêtée. Ceux qui se sont enfuis sont sur le chemin du retour.
Suite à fin d'une semaine d'actualité, Marie-Françoise Durand, c'est l'Afrique qui vote, qui s'est exprimée cette semaine, ou qui va voter en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Je voudrais qu'on consacre ces dernières minutes de l'émission à des choses positives, parce que les auditeurs ont dû se dire depuis le début de l'émission que les perspectives n'étaient pas très brillantes sur la planète, mais il y a également des choses positives. Et vous considérez, d'ailleurs vous le traitez dans l'Atlas, que le web, de toute évidence, l'Internet, les nouvelles technologies peuvent aussi avoir un aspect positif. Allez, soyons optimistes.
Oui. Je pense que cette espèce de bouleversement fondamental d'une société mondiale en 30 ans, en une génération, oui, avec l'Internet et avec finalement cette possibilité que chaque individu parle à chaque individu. Bon, sous réserve d'avoir l'électricité, un ordinateur, de savoir à s'en servir et d'avoir de la bande passante. Mais disons, cette potentialité de passer du lien direct d'individu à individu est quelque chose de complètement nouveau et qui fait partir l'humanité dans un autre chemin, peut-être. Cela dit, il faut garder en mémoire que c'est un monde aux mains de très grandes firmes multinationales. Voilà. Avec une capacité de levée de fonds considérable, des dividendes extrêmement élevés.
Qui commencent à peine à être taxés, on l'a vu avec les gilets jaunes en France,
absolument. Et qui, finalement, ont un degré d'intégration technologique tel que même un utilisateur qui a une culture scientifique minimum n'a aucune idée de ce que peuvent faire les algorithmes, parce que ce ne sont pas des gens derrière leur clavier, mais des algorithmes qui ont été programmés avec leurs données personnelles. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience sociétale du fait que toute personne qui utilise un réseau social ou qui passe une commande en ligne sur Alibaba ou sur Amazon fournit un certain nombre de données personnelles dont il n'est pas forcément conscient et qui servent à ces multinationales de l'Internet à être vendues, notamment pour les supports publicitaires. Alors je pense qu'il y a eu un tournant avec le scandale de Cambridge Analytica au printemps 2018, où là effectivement, une entreprise a utilisé les données de Facebook pour faire passer des messages sur la campagne électorale américaine, ça c'est sûr, et probablement même sur le référendum sur le Brexit. Donc à partir de là, quand ça commence à toucher plus que les publicités que vous retrouvez dans votre ordinateur parce que 3 jours avant, vous êtes allé commander quelque chose sur Internet, si ça touche vraiment au fonctionnement démocratique des sociétés occidentales, là il y a vraiment une alerte. Donc je pense qu'on est dans une situation paradoxale, d'opportunités extraordinaires et de fragilité à cause des firmes et à cause aussi du fait que un certain nombre de fake news circulent très rapidement. Et donc je pense que, et le travail extraordinaire que font les journalistes pour les systématiquement les contrer, et aussi peut-être l'enseignement, doivent s'en saisir.
Effectivement. Voilà. Merci Marie-Françoise Durand. Merci de nous avoir donc proposé cet atlas qui s'intitule Espace Mondial, l'Atlas 2018, et surtout d'avoir créé un site qui va permettre aux auditeurs qui viennent de nous écouter, ceux qui sont intéressés par ces questions, d'aller retrouver tout ce travail, toute cette documentation. Et je répète l'adresse, c'est espace-mondial-atlas.sciencespo.fr. espace-mondial-atlas.sciencespo.fr. Merci Marie-Françoise Durand.
Merci.
Votre atlas donc est à recommander. Une semaine d'actualité réalisée bien sûr par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour Idées avec 2 rendez-vous différents durant 3 dimanches. Nous nous retrouverons à notre heure habituelle, 17h10 heure de Paris, 16h10 temps universel, et nous parlerons de l'écrivain pilote ou pilote-écrivain Antoine de Saint-Exupéry, le père du Petit Prince, à ne pas manquer à la veille de Noël. Et nous nous retrouverons aussi durant ces 3 dimanches à 12h10 heure de Paris à la place du magazine International. Nous vous proposerons demain une nouvelle diffusion d'un numéro d'Idées consacré à mai 68 avec le sociologue Jean-Pierre Le Goff. 2 idées donc durant 3 dimanches, vous êtes des vénards en quelque sorte. Bon week-end, bonne semaine, joyeuses fêtes, dans un instant, nouveau journal sur RFI.